Manie Christian derrière, le chialeux. Salut Christian le chialeux. On a notre grand copain Lucien qui est au bout du fil. Hey Lucien.
Salut.
Hey.
Alors ça va là-bas les bonhommes de neige? Nous on n'arrive pas à en faire, il n'y a pas assez de neige. Incroyable.
Bah, on va
pas nous en envoyer en colis postal là. Ou alors en téléportation, hein, ça serait pas mal.
Hein. Lucien, nous on va faire des bonhommes de neige avec la nouvelle mascotte de Jean-Pierre Raffarin, la Vachibou.
La Vachibou, hein, je connaissais pas ça.
Heureusement.
Non, je suis pas au courant des dernières nouveautés cosmétiques.
C'est la mascotte du 400e anniversaire du Québec. Est-ce que tu savais que la ville de la province de Québec avait 400 ans?
Ben, écoute, exactement non, mais bon anniversaire. Bon anniversaire, pourtant vous les faites pas. Hein.
Non, je sais.
Vos 400 ans.
Non, tout à fait. Ben c'est de votre faute, hein. C'est vous qui nous avez envoyé là-bas v'là 400 ans.
Ben oui. En plus, c'est jeune, hein. D'ailleurs, ça me donne que l'idée que, en fait, civilisation qui est venue en Amérique ses déboires au début, mais enfin,
ben oui.
Bon, 400 ans par rapport à 10 000 ans, par exemple, c'est absolument rien, quoi.
Ouais.
Donc, on peut admettre que c'est faux pas et que maintenant, de plus en plus, elle se solidifie.
Mais je te dirais, Lucien, que nous ne sommes absolument pas représentatifs de la grande province de Québec, là. La majeure partie sont vieux et croulants.
Ah oui?
Oui.
Ah oui. Même à Montréal?
Oui, à Montréal, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'immigrés. Je te dirais qu'à Montréal, c'est quand même un peu plus jeune par rapport au ratio d'individus qu'il y a. C'est 1,3 million. C'était même 2 millions, je pense, Christian. Si on va chercher 2,3, non.
Oui.
Non. Oui, c'est ça. Oui. 2 millions d'individus à Montréal, Lucien. Mais beaucoup d'immigrants au travers. Mais il reste quand même que les Québécois de souche là, du Québec, je me répète, là, mais bon, ils sont facilement âgés de 50 et plus. Là, OK? 50 ans et plus. C'est gros, là.
Pourquoi il y a pas le renouvellement des générations?
Ben non.
Vous faites pas assez d'enfants, quoi.
C'est exactement ça. On fourre pas assez nos femmes.
Ben oui, oui.
Il va falloir qu'il y ait...
c'est le problème. C'est le grand problème de beaucoup de pays en Europe, en fait. Hein.
Il va falloir que les Français viennent copuler les Québécoises.
Oui. Mais il faudrait qu'elles acceptent aussi d'avoir 4-5 enfants et de qui va s'occuper de tout ça, etc. C'est un gros problème. Ouais, quand tu reviens à une vision traditionnelle des choses...
Bon, un instant, Lucien, on nous demande via le live@rockick.com, Lucien, si Vachibou, peut-on l'immoler en public? Si ça pouvait faire pour le 400e un gros feu de joie, moi je crois que oui, je voterais en cette faveur. Christian, est-ce que tu voterais en cette faveur? On me dit que oui aussi de la part de Christian. On immolerait Vachibou, histoire de faire un beau gros feu de joie pour le 400e anniversaire de Québec en 2008. Est-ce que tu votes pour ça aussi, Lucien?
Oh, écoute, je sais pas. Je sais pas. Faut voir. Tu veux dire immoler une vache vivante avec un grand prêtre qui aurait un grand sabre et qui l'a... C'est ça? Ou alors...
Oui, c'est ça.
Ou alors avec un revolver... C'est une grande question, hein.
Oui, je sais.
Notre rapport aux animaux, comment on fait et qu'est-ce qui se passe? c'est pas rien, hein.
Non.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent nous interdire de manger de la viande désormais, parce que ça produit trop de méthane et tout ça, on en avait parlé une fois.
Voilà, c'est vrai, ça fait beaucoup de méthane.
Et puis d'autres qui veulent tuer les animaux qu'au couteau, etc. Et puis ça, c'est pas bien non plus. Enfin, bref, quoi.
C'est une question qui doit se prendre avec des gants blancs, Lucien.
Bah, c'est vrai, mais c'est pas rien hein, de poser ce genre de questions, en effet.
Est-ce que c'est...
Non, mais vous pouvez... Une fausse vache, alors, peut-être.
Oui, ben, une fausse vache. Par exemple, une mascotte, on pourrait la brûler.
Ouais, ça serait pas mal.
Oui, ben, alors, l'idée de...
Avec... elle aurait les traits du président iranien, là, par exemple. Ça serait...
Je sais pas, je...
Ben, ouais. Si, parce que eux, ils font souvent des trucs comme ça. Ils brûlent des drapeaux.
Ah oui, ils brûlent des drapeaux.
Américains, je sais pas s'ils brûlent des drapeaux canadiens d'ailleurs.
J'ai jamais vu ça même.
Faudrait leur demander parce que à Damas là ou à Téhéran, je les vois pas trop brûler des drapeaux canadiens. Ça c'est pas juste. Mais donc faudrait en fin de compte mettre la gueule du président iranien quoi et puis le brûler, oui. Alors, puis en plus, ça sera une vache. Bon, si c'était un cochon, alors là, il gueulerait, mais comme une truie. Mais comme c'est pas un cochon. Non, mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait peut-être passer au premier sujet. Là.
Ben oui. Oui, je vote pour ça. Je vote pour ça.
Oui, parce que je t'avais dit qu'en fait, là, on s'est aperçu que l'Iran envoyait pas mal d'armes pour ses sbires et pour les gens qu'elle paye en Irak. Et la Syrie, elle a fait un attentat au Liban. Bon, évidemment, on n'a pas les preuves de tout cela. Mais quand même, il y a des armes où il y a bien le tampon des gardes spéciaux, des passe-radans spéciaux. Là, c'est code army, je crois. Enfin, une brigade code. C'est une brigade très très spéciale des passe-radans iraniens. Qui donc, on a retrouvé des armes. Et puis il y a eu ces deux bus qui ont sauté à la veille de la manifestation à Beyrouth, là, commémorant l'anniversaire de l'assassinat d'Hariri. Et donc ça montre bien que contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien ces deux pays sont de plus en plus impliqués dans le terrorisme. Et c'est pour ça que une de nos collaboratrices à Résilience TV a écrit un petit papier en les traitant de contre-révolutionnaires, en fait, en les traitant de réactionnaires,
okay.
En considérant que ce sont oui. des éléments qui empêchent le processus démocratique d'arriver à son terme, qui en fait fomente la division et crée les dissensions de plus en plus et que donc ce sont des personnages dangereux les deux membres enfin les deux présidents syriens iraniens. Et ce qui est incroyable c'est que j'ai entendu hier ou ce matin disons une conférence de presse de Bush présentant justement le fait qu'il y a eu des armes iraniennes qui ont été retrouvées et que ces armes elles tuent des soldats américains là-bas. Eh bien, il y a un journaliste tendance démocrate qui commence à dire, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous ne refaites pas le coup de Colin Powell avec en train de secouer un peu de peau blanche comme ça à l'autre pour dire que c'est une arme chimique, etc. En gros, l'idée c'est de mettre en doute quoi le fait que ces pays-là eh bien sont contre tout processus de pacification parce qu'évidemment ça va à l'encontre du plan Baker qui disait que bon si on faisait des tas de compromis avec la Syrie et l'Iran eh bien peut-être qu'ils nous laisseraient tranquilles enfin peut-être qu'on pourrait justement rapatrier les troupes tranquillement sans recevoir des bombes toute la journée et ça c'est vraiment une façon de penser qui rappelle non seulement toute une époque défaitiste qui va de la guerre du Vietnam jusqu'à la révolution iranienne, quoi, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi l'idée qu'en fin de compte la faute viendrait principalement de l'Occident, elle viendrait principalement du fait que justement il fallait renverser ce dictateur Saddam Hussein, parce que de plus en plus il mettait le danger et il empêchait que cette région puisse avoir une autre alternative. Alors évidemment, on peut dire oui, mais là pour l'instant elle n'en a pas. Mais si elle en a, elle en a si ses forces hostiles étaient vaincues, parce que en fait la plupart des régions en Irak sont à peu près pacifiées, au sens où les Irakiens veulent faire quelque chose, ne veulent pas. Là on voit pas par exemple des centaines de milliers d'Irakiens dans la rue avec des armes en train de se ruer sur les bases américaines en disant partez, on veut pas de vous, etc. On voit pas des manifestations, des gens qui comme ça donneraient leur corps comme ça devant les fusils américains ou les tanks, etc. Enfin, quand on voit un peuple en colère, quand on voit un peuple qui légitimement se dit qu'on se fout de lui et que vraiment
exact.
Ils interviendraient, et là c'est clair que ce serait pas possible de se maintenir. Effectivement, là on verrait que qu'il faut partir, mais c'est pas du tout ça. C'est une minorité qui est payée, grassement payée par les anciens saddamistes, bassistes et puis les Iraniens, et qui font tout ce qui est nécessaire pour interrompre tout processus de reconstruction, etc. Alors évidemment, les médias sont remplis de reportages avec des Irakiens qui s'en vont, avec des Irakiens qui souffrent, etc., etc. Mais on pourrait aussi remplir les médias avec d'autres reportages où il y a des Irakiens qui sont bien contents que Saddam soit parti, etc. Alors effectivement, aujourd'hui, bon, il y a eu des erreurs tactiques qui ont été commises, et que l'important c'est de récupérer la capitale, c'est vraiment de faire en sorte que Bagdad soit tenu, parce que dans ces pays-là, et même dans tout pays d'ailleurs, lorsque la capitale n'est pas maîtrisée, eh bien ça donne l'impression que le pays entier va à vau de l'eau, quoi. Donc c'est ça qui a retenu mon attention cette semaine. Bon, et puis aujourd'hui il y a eu les attentats, enfin il y a eu plutôt le commencement du procès à Madrid.
Et voilà, oui, c'est ça.
Et là, on sentait presque chez certains journalistes, mais évidemment ils n'osaient pas le dire, qu'au fond, si les Espagnols n'avaient pas été en Irak à l'époque, eh bien il n'y aurait peut-être pas eu de bombes, etc. Alors qu'en réalité, les islamistes se sont servis, en fin de compte, de cette opportunité-là pour mettre des bombes, parce qu'ils les auraient mis de toute façon, comme ils en ont mis en Algérie, comme ils en ont mis en France, comme ils en ont mis aux États-Unis en 2001, alors qu'il n'y avait pas d'Irak, etc. Et surtout pour ces islamistes-là, l'Espagne c'est vraiment important symboliquement, parce que c'est l'idée que justement avec l'Espagne, l'Andalousie, etc., ça a été le summum de l'âge d'or arabo-musulman. Alors que quand on regarde de plus près, ça a été en effet une période faste, mais parce que le pouvoir politique central du califat n'existait pas, en fait. Il y avait des micro-petits califats, il y avait un enchevêtrement de royaumes chrétiens et de royaumes musulmans, et en plus, il y avait un cosmopolitisme extraordinaire qui faisait que, par exemple, il y avait des traducteurs juifs qui traduisaient des livres de grec en arabe, il y avait des perses, Il y avait des Nord-Africains, il y avait des Babyloniens, des Mésopotamiens, enfin bref, il y avait tout un ensemble de gens qui, comme ça, communiquaient, et ça n'avait absolument rien à voir avec une vision monolithique, une vision où était décidé, où il y avait que, par exemple, que la religion qui était le socle, quoi. Il y avait vraiment une ouverture d'esprit, et même il y avait des contradictions. Par exemple, on dit que Averroès, qui est l'un des philosophes phares de l'époque, a amené Aristote en Europe, alors qu'Aristote était oublié à l'époque du bas Moyen-Âge. Mais en réalité, Averroès a, en fin de compte, traduit ou a interprété Aristote d'une manière tout à fait erronée. Par exemple, il y a un spécialiste du Moyen-Âge qui s'appelle Deliberat, qui a traduit un texte de Thomas d'Aquin qui s'appelle « Contre Averroès », où justement Thomas d'Aquin explique que pour Averroès, l'homme ne pense pas, en fin de compte. Il n'a pas un intellect intrinsèque à lui-même, une conscience de soi. C'est la société qui pense en lui, ou c'est le langage, ou alors c'est Dieu. C'est un intellect externe qui pense, et l'homme n'est qu'un agent qui reçoit. Et ça, c'est vraiment une conception musulmane de la manière de concevoir entre l'homme et la conscience. Enfin, tout ça pour dire qu'en fin de compte, bon, l'Andalousie, etc., c'est important. Et donc, ces islamistes auraient fait, de toute manière, quelque chose à cette époque. Et d'ailleurs, ils ont essayé de faire ensuite des attentats, alors que les Espagnols étaient partis d'Irak. Donc, et ce qui est dommage, c'est que ce sont des Marocains qui sont à la base de cela. Et alors que les Marocains, théoriquement, enfin, ils ne devraient pas se mêler de ces affaires-là, quoi. Mais bon. Ça, c'est leur manière d'être plus royaliste que le roi, d'être, pour moi, enfin, c'est une opinion personnelle, mais...
Oui, effectivement.
Beaucoup plus arabes que les arabes, quoi. Alors qu'ils sont berbères, en fin de compte, en majorité. Mais ils le reconnaissent pas. Bon. Alors, il y a un autre sujet qui m'a intéressé cette semaine.
Oui.
À moins que tu aies des questions sur cette première partie là.
Non, on poursuit, mon cher ami, parce que le temps nous manque aujourd'hui. On est ultra, ultra serré. Moi, il y a une chose que je vais te poser comme question, c'est que est-ce que c'est typiquement normal de voir ces gens-là agir envers nous de manière méchante, d'agir de toujours avec le petit côté ouais, ben c'est des mécréants et ils ont rien de bon entre les deux oreilles. Dis-nous.
Bah écoute, d'un certain côté, c'est un peu normal parce que ils sont le dos au mur, quoi. C'est pour ça que quand quelqu'un de résilience a parlé de réactionnaire, c'est que en fait, ça veut dire que ils sont ultra conservateurs, ils ne veulent pas changer leur vision des choses. Et donc, lorsqu'ils sont en face de la démocratie, la modernité, enfin bref, l'individualité, enfin, tout ce qui concerne cette façon d'exister qui fait que l'individu n'est pas subordonné au groupe, ou l'individu n'est pas subordonné à un discours supérieur, mais qu'il prend ses propres décisions, enfin tout en se confrontant avec autrui, enfin bref, disons tout ce qui différencie justement le discours moderne du discours, je dirais pas ancien, parce que le discours ancien aussi, il y avait une autonomie de la pensée, mais disons un discours tyrannique ou un discours de subordination, un discours en fin de compte anti-démocratique, au sens de refuser à tout individu d'avoir sa propre conscience. Bon, eh bien ces gens-là, ces islamistes, voyant que ça remet en cause en fin de compte la mainmise de l'islam sur la société, eh bien, c'est clair qu'ils le refusent, quoi. C'est clair qu'ils ne peuvent pas l'accepter, puisque ça va à l'encontre de tout ce qui est édicté dans le Coran, par exemple, ou dans la tradition, contrairement à ce que nous disent les partisans de l'islam à l'eau de rose, où ils peuvent trouver 2-3 versets, effectivement, qui parlent gentiment des petits oiseaux, et puis du fait que alors, il faut être respectueux d'un certain nombre de choses. Il y a toutes les sagesses dans n'importe quelle tribu du Pacifique Sud te dira aussi dans ses poèmes qu'il faut reconnaître que le monde est grand et qu'il y a des forces qui sont respectables.
Même la tribu K, Lucien, même la tribu K?
Non, peut-être pas celle-là, quand même. celle-là, elle est complètement enfouie dans une conception de la revanche, et en même temps, elle est assez liée avec justement ce que je voulais développer là comme deuxième sujet, c'est à savoir que tous les maux, tous les problèmes seraient liés à un certain type de société ou alors à une certaine race. Par exemple, les blancs seraient uniquement la source du mal, ou alors la société individualiste ou la société démocratique serait ou la propriété privée ou le capitalisme serait l'unique source de tout ce qui ne va pas sur Terre. Sans prendre en compte le fait que la nature humaine, elle y est aussi pour quelque chose, quoi, que le mal, il fait partie de nous et qu'on doit le combattre aussi, et que eux-mêmes, quand ils regardent leur propre histoire, quand on voit par exemple la façon dont les tribus noires pouvaient se battre entre elles, comme les tribus indiennes d'ailleurs, pouvaient se battre entre elles et puis vendre les vaincus aux Arabes pour le trafic, mais ensuite aux Français, aux Anglais. D'ailleurs, le film de Mel Gibson, c'est pour ça que j'en parlais la dernière fois,
oui,
Apocalypto. Il explique bien ça, qu'il y a justement certains hommes dans un certain caractère, dans certaines conditions, vont profiter de l'occasion. Et si effectivement il y a un système politique et économique qui leur permet d'être plus efficaces dans le mal qu'ils veulent organiser, eh bien ils se servent de ce système-là. Mais c'est pas celui-ci en lui-même qui est nécessairement mauvais, sauf si il va à l'encontre des principes fondamentaux de la liberté, de la justice, etc., comme le sont les systèmes tyranniques. Alors là, ceux-là, oui, sont effectivement contre-productifs et doivent être combattus. Mais ce n'est pas du tout le cas du système capitaliste ou du système lié à la propriété privée, parce que si par exemple, c'est pour ça que je voulais en parler, quand j'entends des discours de droite de gauche et d'extrême gauche, quand ils s'en prennent aux multinationales, à Total, à tout cela, on a l'impression que c'est parce qu'il y a ce genre d'entreprise qu'il y a ce genre de problème. Or, quand on regarde dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui, justement, profiter de certaines occasions pour s'enrichir de façon malhonnête, pour se servir des amitiés qu'ils avaient dans le pouvoir pour justement mettre la main basse sur un certain nombre de richesses. Donc de tout temps, il y a eu cela, et la cause unique n'est pas dans la propriété privée ou dans l'idée que si on supprime cela et si on rend ça, on rend le pouvoir collectif, eh bien tout serait résolu. Parce que c'est ça le fantasme qu'il y a à gauche et à l'extrême gauche.
Lucien, on va te poser une question, Lucien. Pour qui vas-tu voter pour la présidentielle?
Bah écoute, là, franchement, je suis très embêté parce que, en fait, il n'y a aucun candidat mais qui me plaît suffisamment. Mais enfin, bon, il y a Sarkozy qui me plaît plus, quand même, parce que je ne vais pas les mettre au même niveau. Je vais pas jouer un bon relativiste, mais je suis pas satisfait de la campagne que mène Sarkozy à l'heure actuelle.
Ok. Ok. Et, voilà. Et maintenant, Le Pen, ça t'intéresse pas?
Écoute, non. Franchement, non. Même si, bon, la dernière fois, je t'avais dit que sa fille, elle disait des choses intéressantes, mais je le trouve trop conservateur pour moi. Mais surtout profondément anti-européen, mais pas au sens de combattre la bureaucratie européenne.
Est-ce que
là, je suis d'accord.
Oui, est-ce que Le Pen a déjà tenu des propos racistes, Lucien?
Écoute, il a tenu des propos à la limite antisémites quand même. Parce que je pense qu'il fait partie d'un courant de l'extrême droite qui est proche des courants païens et national-socialistes qui existent en France.
Oui.
Donc, il est par exemple plutôt pro-arabe que pro-juif, quoi. C'est quand même un pote c'était un pote de Saddam Hussein, hein. Il y a Chirac et lui qui étaient pote de Saddam Hussein. Donc, il a défendu, il a été en Irak, il est avant 2003, et sur son site, il y a des textes très très durs contre les Américains en disant il faut se battre contre la mamie américaine au Proche-Orient, etc. Donc on avait l'impression que c'était un communiste qui avait écrit ça. Moi j'avais l'impression que c'était un communiste ou un tiers-mondiste.
Lucien, est-ce que tu te rappelles, Lucien, les propos antisémites ou enfin voire racistes qu'il a déjà tenus?
Ben écoute, une fois il a joué avec le mot « durafour crébatoire ».
Ah, ok.
Il se moquait de... Enfin, il parlait de Durafour. Durafour qui était un ministre centriste qui avait accepté d'être dans le gouvernement de Mitterrand. Et puis un jour, il a parlé, on lui a posé une question. Je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais il a joué avec ce terme-là.
Ah, c'est parce qu'on nous disait ce matin qu'il n'avait jamais tenu ce type de propos-là.
Et... Durafour crématoire, il l'a joué, il l'a dit. Et deuxièmement, il a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Or, si chronologiquement ou si tu veux, quantitativement, on peut dire que au niveau de la stratégie militaire, effectivement, les chambres à gaz ne jouaient pas en termes d'éléments de combat. Ce qui était important, c'était les troupes, c'était les positions des armées, effectivement. Mais il ne disait pas ça dans cette optique-là. Il pouvait dire qu'en fin de compte, bon, c'était pas là le problème, c'était un problème d'opposition de puissance, et que c'était un problème classique, un problème, en fin de compte, que l'Europe a toujours connu entre des puissances européennes qui se battaient pour avoir la suprématie, etc. Or, le régime nazi, c'était pas le Kaiser, c'était pas l'Empire germanique de Guillaume II, c'était pas la Prusse. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, un vrai Prussien, par exemple, méprise un nazi, parce que un nazi, c'est qu'en fin de compte, qu'un inculte, un vulgaire petit...
Alors, on est d'accord, Lucien, on est d'accord que Le Pen a tenu des propos racistes.
Ah ben oui. Et puis, il a dit détail de l'histoire. En plus, il soutient Bruno Gollnisch, qui a dit ça c'est un problème entre historiens. Je veux pas trancher sur cette question des chambres à gaz. C'est un problème entre historiens. Or, il peut pas dire ça. Ça a été tranché, etc. Non, mais ce genre de gens... Alors, évidemment, la fille de Le Pen, Marine, elle essaye de contrebalancer cette chose-là, mais... Ils font tout, à partir d'éléments vrais, d'éléments intéressants, ils font tout pour se discréditer, et c'est ça qui est navrant, quoi. Mais évidemment, ils s'appuient sur des choses réelles, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis du mépris de l'État central par rapport à...
Non, mais je veux donner quand même une certaine chance à certains individus qui nous écoutent, qui nous ont dit non, vous vous trompez là, royalement.
sur ce que vous avez dit concernant Le Pen. J'écoute, je suis Le Pen depuis 6 ans et il n'a jamais tenu des propos racistes ou antisémites. Peu importe, c'est la même chose selon moi là.
Il, c'est pareil.
Alors, les propos antisémites, il les a tenus quand exactement? Est-ce que ça fait plus que 6 ans? Est-ce que ça rentre dans une période de 6 ans si on recule de
Écoute, c'est le dur à four crématoire, ça fait plus que 6 ans, mais le fait de dire que premièrement les chambres à gaz, c'est un détail, je pense que ça fait moins de 6 ans, et en plus il a dit un autre truc qui alors ça fait moins de 2 ans. Il avait parlé de Oradour sur Glane, où il y avait le régiment Das Reich qui était remonté vers Berlin et qui avait rasé ce Oradour et on lui avait demandé son avis, enfin je sais pas quoi, et il avait dit en général qu'au fond l'occupation allemande n'avait pas été si terrible que ça, quoi. Donc il relativisait la présence de l'Allemagne, et c'était pas dans un esprit pro-européen, c'était fondamentalement dans le fait que c'était un germanophile, mais au sens, c'est plus qu'un germanophile, c'est vraiment quelqu'un qui est profondément ancré dans une dimension guerrière, païenne, etc., et qui a comme exemple que l'Allemagne, quoi. Et donc, en fin de compte, je pense qu'il rompe avec certaines racines typiquement françaises, quoi. Donc, il est pas lié à tout le courant judéo-chrétien, justement, qui fait l'âme de la France. Il est plutôt lié à la version paganiste.
Et il y a Wonder Chris qui nous dit, il y a Wonder Chris aussi qui a vraiment corroboré tes dires, Lucien, concernant les propos de cet homme-là, de Jean-Marie Le Pen, qui a tenu des propos racistes et de dangereux malades. Alors, je vois pas pourquoi. Parce qu'on s'est fait dire tout à l'heure qu'on était dans l'erreur concernant le fait qu'un de nos politiciens, Lucien, a été comparé à Jean-Marie Le Pen. Et pourtant, le politicien en question qui est nommé, que je vais te nommer, il s'appelle Mario Dumont. Il est chef de l'ADQ, et il y a un député libéral qui l'a comparé à Jean-Marie Le Pen.
Parce qu'ils savent pas, hélas, le problème, c'est que tous ces gens-là de gauche et d'extrême gauche qui sont vraiment, pour moi, des gens qui sont racistes d'un certain côté eux aussi, parce que ils sont contre tout ce qui est riche, tout ce qui est tolérant d'un certain côté, ils sont haineux, et puis ils adoptent les mêmes arguments que les islamistes en disant, si tu critiques la religion d'islam, et ben tu es raciste, alors que ça n'a rien à voir. Il y a des arabes qui sont chrétiens, il y a des berbères aussi, enfin il y a des gens qui sont bouddhistes, enfin on ne critique pas des ethnies, on critique des idées, on critique des conceptions, et c'est ce que disait Redeker d'ailleurs quand il expliquait que ça n'a rien à voir.
On nous dit aussi facilement que cela et sans gêne, Lucien, que le propos que Le Pen a tenu concernant que c'était un détail, les fameuses chambres à gaz, que c'était un détail, qu'il a peut-être, l'individu nous dit ici, qu'il a peut-être un peu dérapé.
Oui, non, mais je sais que, bon, je comprends, hein, qu'il y a un certain nombre de gens qui ont tellement marre du système, etc., etc., qui sont prêts à pardonner à Le Pen tout. En fin de compte, quoi.
Et Lucien, je pense que c'est ça qui est malade.
Du moment qu'il va foutre la merde, excuse-moi de parler aussi carré, quoi.
Oui.
Du moment, ils veulent se servir de Le Pen comme bélier, si tu veux, pour défoncer le côté vermoulu de la Ve République en France qui vraiment prend l'eau de toutes parts. Et justement, peu importe ce qu'aurait dit ou ce qu'aurait fait Le Pen, eh ben, on s'en fout, on ferme les yeux, on fonce, on en a marre, etc., etc. Alors que, j'ai dit, faites attention, c'est pas parce que, effectivement, il peut avoir une violence, une révolte légitime, qu'il faut pour autant s'abandonner dans les bras de quelqu'un qui n'a pas d'autre objectif que de peut-être de faire pire, qu'il n'a pas d'autre objectif que de justement nous emmener vers une dérive qui en plus va donner des armes à ceux que l'on déteste tout autant, c'est-à-dire l'extrême gauche, qui va se prétendre être supérieure en démocratie, etc., et qui va vouloir s'opposer à lui. Donc on va voir, comme dans les années 30, communistes et fascistes, en fin de compte, eh bien, se combattre en faisant croire qu'ils détiennent la vérité, et pendant ce temps-là, au milieu, eh ben, les démocrates, on prend tout sur la figure. Eh ben ça, il faut refuser, parce qu'il y a d'autres alternatives possibles, même si, elles sont pas encore apparentes, mais elles vont venir, elles se construisent, et il y a des gens, même à l'intérieur du Front National, à l'UMP, même à gauche aussi, d'ailleurs certains qui veulent voter Sarkozy, qui vont petit à petit se structurer et faire en sorte que quelque chose de nouveau émerge. Il ne faut pas non plus, parce qu'on en a un ras-le-bol de tout, basculer dans l'aventure. Donc c'est pour ça que ces gens-là...
Il y a une chose que je peux dire en terminant, Lucien, c'est que voir des individus avec le crâne rasé et le sigle de la croix gammée, je peux tout de suite te dire que moi, si dans mon parti, il y avait ce type d'individu qui essayait de se coller ou de prendre, j'arrêterais mon parti tout de suite, je cesserais d'exister dès maintenant.
Bien sûr, parce que il faut pas non plus tomber de charib en filard, enfin, la peste et le choléra, ça va, quoi.
On nous demande, un instant, Lucien, on nous demande, juste avant qu'on termine, comment expliquez-vous, dans le fond, l'appui d'Alain Soral pour Le Pen? Il veut détruire la France?
L'appui de qui?
Je recommence, Lucien, il n'y a pas de problème.
Oui.
Comment explique-t-il l'appui d'Alain Soral pour Le Pen?
Ah oui.
Bon, il veut détruire la France?
Soral, moi je l'ai connu un petit peu quand il écrivait son livre La mode racontée aux parents. Donc c'est à l'époque il était dans une critique de la société de consommation, etc. Et puis il a basculé vers un palestinisme, en fin de compte quelque chose de profondément manichéen, viscéralement anti-israélien, etc. Et comme Le Pen était aussi pro-arabe, Soral, à un moment donné, voyant qu'à gauche ça patinait et qu'en fait il pouvait pas non plus sans doute partager entièrement les propos simplistes des trotskistes et caricaturaux ou mous, ultra mou, qui existe au Parti Socialiste et puis au Parti Communiste, et ben lui, ancien communiste, paraît-il, il est parti à l'extrême droite, comme dans les années 30, il y avait des gens de la gauche socialiste qui sont partis à l'extrême droite, hein, ça c'est pas nouveau. À un moment donné, entre le socialisme national et le national-socialisme, il y a des liens, quoi. Et pas oublier que Mussolini faisait partie de la gauche du Parti Socialiste italien, que Doriot, qui était un éminent membre du Parti Socialiste ou du Parti Communiste Français, je ne me rappelle plus, tiens. Faisait partie à un moment donné des mouvances d'extrême droite. Donc c'est pas étonnant que c'est un peu comme Dieudonné, Alain Soral, quoi. Il y a cette idée de se dire qu'il y a une profonde révolte nationale. Bon, c'est vrai qu'il a écrit le discours qu'a fait Le Pen à Valmy. Donc, il s'appuie sur des éléments vrais. D'ailleurs, c'est ce que disait toujours Raymond Aron. Il expliquait que les mouvements extrêmes s'appuient toujours sur des réalités, sur des choses vraies, pour pouvoir justement être reconnus et alimenter leur discours et qu'en effet, en s'appuyant sur des éléments vrais, eh bien, ils donnent une sorte de cohérence à ce qu'ils racontent. Eh ben, lui, c'est pareil, quoi. Il s'appuie, Soral, dans son discours de Valmy, sur toutes les contradictions qui existent en France, tous les manques, enfin, toutes les exaspérations qu'on peut voir tous les jours, et il en a fait une sauce qu'il a présentée à Le Pen pour s'en servir comme tremplin en fin de compte. Mais simplement c'est très limité, c'est absolument très limité, parce que en ce qui concerne tous les problèmes très sérieux au niveau économique, au niveau de l'organisation politique, etc., les réponses sont vraiment raccourcis. Enfin, comment on répond à des problèmes vraiment peut-être ennuyeux, mais nécessaires, comment on gère les entreprises, etc., etc., le rapport aux syndicats, enfin, toutes ces questions-là. Alors, évidemment, le Front National, il a des réponses, parfois des choses qui peuvent être sensées.
Lucien.
Mais dans l'ensemble, ce n'est pas acceptable, parce que c'est pas à la hauteur des enjeux. Okay. Vraiment,
Lucien, dis-moi, la fête des Français, c'est une fois par année, mais à quel moment, s'il vous plaît? Un peu comme on fête le 4 juillet, justement, aux États-Unis, l'indépendance des États-Unis.
Ah ben, c'est le 14 juillet.
Vous, c'est le 14 juillet, c'est ça?
Ben oui.
Vous...
Je savais pas.
Vous fêtez quoi exactement?
La prise de la Bastille.
OK, merci. Bon. Alors, vu que vous nous avez fait une caricature, vous avez, Jean-Pierre Raffarin nous a fait une mascotte, le Vachibou, Lucien, OK? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse, nous les Québécois, vous envoyer une mascotte qui personnifierait, en bout de ligne, un Français qui donne sa femme aux Allemands.
Ah oui. Et les Allemands, ils auraient quoi comme tête, alors?
Ben, je sais pas, ils seraient heureux d'avoir vos femmes.
Oui.
Ça pourrait être quelque chose.
Ça, je sais pas.
On pourrait appeler la mascotte vendue.
Oui, non, faut trouver autre chose. Non, nous, par exemple, à Résidence TV, on va lancer un journal satirique qui va s'appeler La Poule Déchaînée.
La Poule Déchaînée.
Donc c'est une poule qui justement enlève ses chaînes et qui se révolte contre tout ce qui se passe. Elle s'appelle comme ça. Donc ça peut être, c'est en fin de compte la Marianne.
Oui.
Moi je préfère plutôt
la Marianne.
La Marianne de Delacroix, là, cette Marianne qu'on voit sur les tableaux avec un revolver ou avec un drapeau aussi.
Un drapeau, moi, je l'ai toujours vu avec un drapeau.
Ouais, avec un drapeau. Eh ben, elle, c'est elle, en fin de compte, qui est intéressante et qui, justement, est toujours la mascotte, quoi, de la France, quoi. Même si, tu as parlé du 14 juillet de la Bastille, même si on peut considérer que c'était aussi naïf. La Révolution française a des côtés bien naïfs.
Il y en a qui nous disent, Lucien.
Les communistes après, qu'on pouvait tout supprimer.
Oui.
Et qu'en fin de compte, on allait vivre dans un paradis après avoir décapité le roi, etc. Et tout
ça va bien. Lucien, on termine là-dessus. Je te remercie d'être venu faire ton tour dans le show Wake Up. On se reparle le jeudi prochain sans faute.
D'accord, Ismaël.
Merci, Lucien. Salut.
Écoute, moi aussi, je te remercie.
On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.
D'accord.
Alors, vous avez entendu Lucien Houlabib, on bat des derrière avec lui. Restez là, on revient tout de suite après ceci. Il est midi 13 minutes.
Le matin, au www.rockkick.com, on start en force. Wake up. De 8h à midi,
chialu des sports chrétiens
et ses collaborateurs.
Et dis-moi, c'est...